France Inter.
Aujourd'hui, l'archéologie d'urgence en Alaska, racontée par...
Charlotte Fauve, journaliste et autrice.
Et Claire Houmard, archéologue à l'université Marie et Louis Pasteur.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Il y a quelques jours, l'ouest de l'Alaska a été balayé par une tempête qualifiée d'historique le 12 octobre. Les restes du typhon Halong ont déferlé sur le delta du Yukon-Kuskokwim, projetant une onde de submersion qui a pénétré jusqu'à près de 100 km dans les terres. Des maisons ont été arrachées à leurs fondations, certaines emportées avec leurs occupants. Des villages isolés ont été inondés, des centaines de personnes évacuées et l'hiver s'est présenté alors que nombre d'habitants se retrouvaient sans abri dans une région sans route, accessible uniquement par avion ou par bateau. Cette catastrophe révèle une fragilité plus profonde, la disparition du pergélisol, l'affaissement des sols gelés, la montée du niveau de la mer et l'érosion accélérée des côtes. Ce sont exactement les transformations décrites depuis le village de Quinahog en territoire Yupki, situé non loin des zones dévastées par le typhon. Là-bas, l'érosion n'est plus un concept abstrait, elle emporte chaque année plusieurs mètres de rivage et menace à la fois les habitations actuelles et les traces d'un passé ancien. Les vestiges de vieux villages préservés pendant des siècles dans la tourbe gelée sont aujourd'hui en passe d'être engloutis à leur tour. À Quinahog, les fouilles archéologiques sont devenues une véritable course contre la montre. Il faut récupérer, documenter, sauver ce qui peut encore l'être avant que les tempêtes plus violentes et plus imprévisibles ne détruisent définitivement ces témoignages uniques. La tempête Halong vient rappeler avec force que dans cette région du monde, les phénomènes météorologiques extrêmes et l'histoire humaine se superposent désormais. C'est cette histoire, ce glissement du monde avec cette tension entre un territoire qui s'effrite et une mémoire qui cherche encore à tenir, que nous allons vous raconter.
L'Alaska se métamorphose. Partout, on peut voir des signes de la dégradation du pergélisol, des glissements de terrain, des maisons qui s'affaissent.
Extrait d'un documentaire de la chaîne YouTube du CNRS en 2024. Charlotte Fauve et Claire Houmard, bonjour.
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 Merci d'être avec nous. Charlotte Fauve, vous êtes en studio ici avec nous à Paris. Et Claire Houmard, vous êtes en duplex des studios d'ici Besançon. Vous publiez ensemble un ouvrage étonnant intitulé « Alaska, l'usure du monde ». C'est aux éditions Albertine et Seuil, dans lequel vous racontez donc l'histoire d'un territoire qui s'effondre et dans lequel sont réalisées des fouilles archéologiques d'urgence pour tenter de sauver des objets, mais aussi des traces culturelles, avant qu'ils ne disparaissent dans la mer. Cet événement récent, cette tempête provoquée par l'ex-typhon Halong, a rappelé, Charlotte Fauve, cette urgence là-bas sur place.
Oui, c'est terrible, parce qu'on peut même dire que le livre, en quelque sorte, est prémonitoire, puisque le site archéologique a été en partie... emporté par la montée des eaux, et il est disparu à 80%. Et là-bas, effectivement, et c'est ce qui a donné le titre du livre, puisque l'usure du monde, en fait, c'est un titre qui rappelle ce mot Yupik, donc qui est Oustek, et qui parle de la déstabilisation du permafrost. Donc les scientifiques ont repris ce titre, ce mot pour décrire ce phénomène. Et ça montre à quel point, en fait, tout est lié à la fois à la disparition de ce passé et puis de ce présent.
Claire Houmard, quel rôle joue justement l'intensification de ces tempêtes dans cette usure là-bas du littoral ?
Elle est malheureusement dramatique et dans les extrêmes. Et malheureusement, comme les populations Yupik, tout comme les populations Inuits, sont surtout des populations côtières, tous les événements météorologiques qui sont de plus en plus forts en plus dans ces coins-là ont tendance à éroder les côtes et à faire disparaître ces sites archéologiques.
Ouais, ce qui fait que chaque événement, Claire Houmard, accélère la perte de terrain là-bas.
Oui, tout à fait. Et là, on pensait être tranquille pour quelques années et ce typhon a malheureusement emporté une très très grande partie du site.
Charlotte Fauve, racontez-nous dans quel contexte très particulier est né ce livre et cette collaboration justement avec Claire Houmard.
Oui, effectivement, c'est une collaboration atypique qui est née du fait qu'on est toutes les deux lauréates de la Villa Albertine. Donc moi, ça faisait déjà une dizaine d'années que j'écrivais sur l'archéologie. Mais à l'époque, donc, je suis partie aux États-Unis. Donc pour un tout autre sujet, aussi sur une terre qui s'enfonce, mais à Miami, donc c'était vraiment l'opposé géographique.
Oui.
Et en fait, lorsque j'ai vu qu'il y avait une archéologue parmi les autres lauréats, j'ai demandé à ce qu'on soit mise en contact. Et c'est ainsi que tout ça a commencé, en fait, par une rencontre. Et aussi par le fait que ce site archéologique, vraiment, en fait, il m'a dès le départ stupéfaite par les artefacts, en fait, qu'on pouvait y découvrir et qui sont donc des masques chamaniques, notamment donc des masques en bois qui sont pris dans la tourbe. Et ces masques chamaniques, en fait, en quelque sorte, ce sont les visions des chamans, en fait, qui datent de plusieurs centaines d'années et qui incarnent des rêves. Et c'est quand même assez rare dans une vie de pouvoir aider à sauver des rêves. Donc,
Il y avait déjà Claire Oumar. Quand est-ce que vous êtes arrivé, vous, sur place, d'ailleurs, en Alaska?
Pour la mission Yupik, ça a commencé en 2022.
Ouais. Il y avait déjà des précédents, en fait. Il y avait déjà des scientifiques qui travaillaient sur place.
Oui, en fait, c'est Rick Necht qui a mis en place tout ce projet d'ampleur à partir de 2009, et en grande partie d'abord avec l'université d'Aberdeen, avant que ce soit des collaborations internationales.
Rick Necht, c'est un archéologue américain. Il a commencé, vous venez de le dire, les fouilles donc sur place à Quinahog en 2009, et on va l'écouter dans l'extrait de ce reportage évoquer quelques-uns des objets et cette histoire très ancienne de l'Alaska.
C'est comme si on avait trouvé un musée seulement parce qu'il était en feu. C'est génial de voir tout ça, mais on a vraiment dû travailler sans relâche, 24 heures sur 24, pour sauver tout ce qu'on pouvait. Cette collection est notre tout premier coup d'œil à la culture Yupik avant les premiers contacts. C'est la première fouille de cette ampleur dans une région qui fait la taille de la Grande-Bretagne. Et c'est une préhistoire qui nous est encore presque totalement inconnue et qu'on commence tout juste à sauver des conséquences du réchauffement climatique.
Voilà, Rick Necht, donc archéologue sur la chaîne YouTube de l'AFP. Charlotte Fauve, c'est donc une histoire extrêmement ancienne. On évoque la préhistoire de l'Alaska dans cet extrait.
Oui, alors c'est vrai qu'en fait, ce qui est particulier, et d'ailleurs ce qui est vertigineux aussi, c'est que les gestes qu'on peut, et les objets qu'on peut retrouver là-bas, il faut imaginer, donc, ils ont, dans le cas du site archéologique, et Claire le précisera sans doute mieux que moi, quelques centaines d'années, mais en fait, ils parlent d'un passé, du passé de nos ancêtres, en fait, c'est-à-dire qu'au moment où, alors je crois que la comparaison qu'on peut faire, au moment où Louis XIV était dans le palais, à Versailles, avec la Galerie des Glaces, les Yupites vivaient comme au paléolithique, donc avec des ressources en matériaux extrêmement sommaires, donc qui sont le bois, et puis ensuite c'est une alimentation qui repose donc sur la graisse des mammifères marins et le saumon. Et tout ça fait qu'en fait, lorsqu'on découvre des objets là-bas, ça parle d'un passé très 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 ancien, en fait, comme si le temps était une sorte un peu élastique, en fait.
Claire Oumar, vous parlez de fouilles de sauvetage, hein, justement. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte arctique exactement?
Ben, je pense que vous l'avez bien compris, notamment avec les événements récents, c'est des sites qui peuvent partir du jour au lendemain à la suite d'une tempête. Donc on n'est pas seulement dans le sauvetage des objets en eux-mêmes, mais aussi de l'ensemble de leur patrimoine, parce qu'un objet sorti de son contexte perd 90% de sa valeur pour un archéologue.
Ouais. Et donc, comment on fait de l'archéologie d'urgence, précisément? Concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire essayer d'avoir les méthodes les plus modernes possibles et la rigueur scientifique dans un temps extrêmement contraint. Mmh. Donc, on essaye de toujours faire des compromis et de choisir les options qui nous permettent de récolter un maximum d'informations dans le minimum de temps, tout en essayant de récolter un maximum de données qui pourront ensuite être exploitées en laboratoire.
Charlotte Fauve le disait, 80% du site donc, sur lequel vous travaillez était balayé par cette tempête du mois d'octobre. C'est quelque chose d'assez dramatique à vivre, j'imagine, pour vous qui êtes archéologue.
Oui, et puis c'est surtout quelque chose qu'on appréhende toujours, et quand ça se passe, c'est un petit peu comme n'importe quel accident, on se dit, bah voilà, ça s'est produit, et il faut faire avec, et il faut essayer de reconstruire, et de sauver ce qui peut encore l'être, et de garder un certain optimisme.
Ouais. Il reste des choses forcément encore sur ce site?
Sur ce site, je pense que malheureusement, il n'en reste plus tant que ça. Mmh. Mais c'est pour ça qu'on a aussi choisi de se déporter sur un autre site pour l'année prochaine.
Qui est à quelle distance de ce premier village?
À peu près 150 km, 180 km vers le nord.
Charlotte Fauve, comment on prend conscience de la fragilité de cet environnement quand on arrive justement sur place? Qu'est-ce qu'on voit aussi là concrètement?
Alors, il faut imaginer, donc, Quinaoak, c'est un petit village de 700 habitants qui a la particularité donc, d'être des maisons sur pilotis, donc, qui servent à la fois, en fait, à, lorsqu'il y a une tempête ou une forte marée, à laisser l'eau s'écouler, mais qui aussi empêche le réchauffement du permafrost, parce que ça écarte les maisons et leur chaleur du sol gelé. Et ce qui est très particulier, c'est qu'on a vraiment l'impression que tout le village est de guingois, puisque, donc, avec la déstabilisation du sol, les maisons sont de travers, même le cimetière gondole. Donc c'est vrai que c'est une ambiance assez particulière. Oui.
Donc on voit vraiment ces transformations du site.
À l'œil nu, et puis dans le quotidien des habitants, ça a des conséquences très fortes. Et je vais peut-être aussi rajouter, sur cette très forte tempête, il faut donc voir qu'elle emporte le passé, mais qu'elle emporte aussi le présent. Donc dans certains villages comme Kouig ou Kipnouk, donc, qui sont un peu plus bas, elle a littéralement emporté des maisons, mais aussi donc, des cimetières. Donc quand vous voyez votre maison partir dans les flots, mais aussi les eaux de vos ancêtres, c'est terrible en fait. Donc ça emporte donc, ce passé très ancien et ce passé récent.
Ouais. Voilà. Claire Oumar, les saisons se dérèglent complètement en Alaska. C'est ce que disent aussi les gens sur place d'ailleurs, les populations. Elles le décrivent ça très très bien.
Oui, en fait, ce qui est difficile, c'est pas tant d'avoir un réchauffement, c'est plutôt d'avoir de l'imprévisibilité dans les saisons et dans les températures. Et le fait que le sol gèle plus lentement, disons plus tardivement, et que on ait moins de neige, moins de banquise, ça complique énormément aussi les déplacements.
Oui.
L'hiver, parce que c'est là qu'on se déplace le mieux, en fait. L'été, c'est une éponge avec que des marécages et de l'eau, et donc on attend impatiemment l'hiver pour pouvoir se déplacer librement, et là ça devient de plus en plus difficile.
Mais comment ça se traduit justement, Charles de Fauve, pour les populations, ces changements qui affectent là les déplacements, parce que ça touche la vie quotidienne des gens?
Ah bah pour le quotidien, effectivement, c'est un quotidien qui est complètement chamboulé, parce que comme l'a dit Claire, ça veut dire que la saison qui était cette saison de l'hiver et des grands rassemblements ne l'est plus tant que ça, et que les populations là-bas dépendent complètement de l'avion, en fait. Et c'est des populations qui sont pauvres, souvent en dessous, donc des seuils de pauvreté. Et donc, comment faire pour aller se visiter entre villages lorsqu'il n'y a plus la banquise pour supporter le poids d'un motoneige? Ben, c'est impossible.
Ouais. Est-ce que ça crée aussi une sécurité pour les populations de se déplacer tout simplement même dans le village ou autour du village, parce que le sol est moins sécure?
Alors, en fait, là-bas, c'est là qu'on parle de l'enseignement verbal, mais c'est que, en fait, souvent, donc, les anciens transmettaient, on va dire, des informations sur les environnements et sur la façon de traverser la toundra avec des karuyun, donc c'est des paroles. Mais sauf que là-bas, maintenant, la toundra en elle-même est imprévisible. Enfin, elle ne réagit plus comme avant. Et donc, pour tous les gens, ça veut dire qu'on ne peut plus se fier à des régions qu'on avait l'impression auparavant de connaître extrêmement bien.
Qu'est-ce que ça veut dire traverser la toundra avec des paroles? Vous pouvez nous expliquer ça?
Ah oui, ça veut dire que là-bas, le karuyun, donc c'est la parole sage, la devise, donc j'en cite plusieurs dans le livre, en fait, on considère qu'elle te prend par la main et qu'elle t'emmène, et qu'il faut que tu l'écoutes de façon extrêmement précise, en fait, pour t'en sortir. Mmh. Et c'est pour ça qu'on dit souvent aux enfants de bien regarder la bouche des adultes lorsqu'ils parlent, parce que sinon ils pourraient retrouver leurs dents et leur sourire au bout d'une congère. Donc c'est tout cet enseignement qui est aussi ce socle sur lequel repose cette culture très particulière.
Quand vous menez des fouilles sur place, Claire Oumar, la météo, justement, elle influence aussi sur place votre travail, et ça impose certaines contraintes pour vous?
Ah oui, tout à fait. Ça joue d'abord sur le moral, mais ensuite, en fonction de la météo, on sait aussi si on va être plutôt gêné par le froid, par la pluie, par les moustiques. Et il faut arriver à jongler avec toutes ces paramètres.
Oui. Parlez-nous un petit mot des moustiques, justement, parce qu'ils ont aussi un rôle. Ils posent un vrai problème sérieux, hein, quand on mène des fouilles comme vous.
Ah oui, les moustiques, c'est vraiment la plaie. Nous, on préfère être finalement dans le froid avec potentiellement un petit pluie,
ouais,
plutôt que d'être dans le chaud avec les moustiques, parce qu'ils nous tournent autour, et puis ils sont vraiment des parasites.
On vient d'évoquer donc ce territoire qui s'effrite vraiment physiquement. On va voir dans un instant que cette usure touche également tout le tissu social et culturel de cette région de l'Alaska. Et puis bien sûr, vous répondrez aux questions, aux messages qui arrivent pour vous sur la page de la Terre au Carré sur franceinter.fr et vos messages vocaux sur l'application Radio France.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Un village en première ligne face au réchauffement climatique. À Napakiak, dans le sud-ouest de l'Alaska, l'érosion gagne du terrain à un rythme inquiétant. Résultat, cette communauté autochtone a déjà dû battre en retraite à deux reprises, emportant ses défunts avec elle. Les habitants ont dû déterrer leurs ancêtres pour les déplacer dans des fosses communes ici. Convaincus qu'il leur faudra à nouveau éloigner le cimetière, ils utilisent désormais des cercueils en métal. Le cas de Napakiak est loin d'être isolé. Selon une étude gouvernementale, presque tous les villages indigènes d'Alaska sont affectés par l'érosion et les inondations.
Reportage de l'AFP, Charlotte Fauve, journaliste, Claire Oumar, archéologue. Vous publiez donc ensemble ce livre Alaska, l'usure du monde, aux éditions Albertine et au Seuil. Ce village évoqué, Charlotte Fauve, dans ce reportage, Napatiak, c'est ça ?
Oui,
ouais. Il est loin d'où vous étiez ou pas ?
Alors, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est effectivement, comme dit le reportage, une situation qui est universellement connue par tous les villages de l'Alaska.
C'est ce que vous décriviez tout à l'heure
exactement,
avec
oui.
les morts qu'on
oui.
est obligé de transférer.
De transférer ou qui partent à l'eau. Et ensuite, effectivement, et ça c'est une réalité, c'est que les sites archéologiques, comme l'a dit Claire, sont le plus souvent sur les côtes. Et ils sont effectivement menacés à plus d'un titre.
Ouais. Claire Oumar, on sait combien il y en a d'ailleurs de sites archéologiques en Alaska ? Il y a un inventaire qui a été fait ?
S'il existe, il n'est pas rendu public.
Oui.
Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément mesurer facilement. Et puis les conditions de prospection en Alaska sont extrêmement compliquées, justement parce qu'il n'y a pas de route. Mm-hmm. Mais globalement, la plupart des sites qui datent, on va dire, de 500, 700, 700, 800 ans avant maintenant,
oui.
sont des sites qui sont connus par la tradition orale. Donc, c'est des sites que en général, les habitants, et en particulier les chasseurs, peuvent nous montrer. C'est pour les sites plus anciens, souvent, que la mémoire est perdue.
Est-ce qu'il y a des archéologues alaskiens, d'ailleurs, sur place, Claire Oumar ?
Il y a des archéologues alaskiens, mais souvent ce ne sont pas des archéologues des communautés natives.
Et donc comment ça se passe quand vous arrivez d'Europe et que vous avez l'intention d'aller fouiller un site avec justement les populations locales ? Comment vous coordonnez là-dessus ?
Ça demande une très grande concertation préalable et c'est ce que Charlotte a aussi vécu cet été parce qu'il faut arriver à leur montrer qu'on arrive avec des intentions de les aider à sauver leur patrimoine et qu'on veut travailler main dans la main avec eux, qu'on n'est pas là pour faire de la prestation, qu'on n'est pas là non plus pour leur voler leur patrimoine ou en faire un sujet d'étude, mais plutôt pour établir des collaborations le plus étroites possible entre le passé et le présent, entre des communautés locales et des communautés scientifiques étrangères. Et c'est de ces collaborations-là qu'on arrive, par la concertation, à obtenir des autorisations de fouilles.
Parce qu'il y a une condition, c'est celle qu'aucun objet ne puisse quitter le village, c'est ça Claire Oumar ? C'est absolument essentiel au cœur de vos travaux archéologiques ?
En tout cas, maintenant, ça fait partie des attentes de ces populations natives, que ce soit au Canada, au Groenland, en Alaska, parce qu'elles se sont senties volées dans leur patrimoine dans les décennies qui ont précédé. Et donc, maintenant, c'est sûr que c'est un gage de sérieux et de respect d'arriver à maintenir un maximum de collections et d'objets de leur passé dans ces villages-là. Mais ça pose aussi plein de problèmes.
Lesquels ?
Ben, par exemple, à Quinaoak, se poser la question du lieu, parce qu'en fait, la plupart du temps, dans ces villages-là, ce ne sont pas les habitants qui choisissent de construire une maison, ni forcément les instances dirigeantes.
Oui.
C'est plutôt au niveau fédéral que ça se décide. Et donc, par exemple, ils ont considéré qu'à Quinaoak, ils allaient construire deux habitations par an pour loger les habitants. Et donc, construire un musée, c'est pas quelque chose qui est programmé au niveau fédéral pour le village. Donc, ce qu'ils ont choisi à Quinaoak, c'est de rénover l'ancienne école et d'en faire un petit musée. Mais ça, c'est une initiative pleinement locale et c'est eux qui ont pris sur leurs finances pour pouvoir aménager ces salles et sauver, disons, garder leur patrimoine dans le village.
Ouais. Charlotte Fauve, il faut dire que ces objets, ce ne sont pas des simples artefacts. Hein. Il y a beaucoup de charges aussi autour des objets qui racontent le peuple d'Alaska aussi. Hein.
Oui, alors effectivement, c'est des objets qui pour eux ont une importance capitale, parce que donc c'est les objets que leurs ancêtres ont tenus en main. Et alors c'est des objets qu'ils considèrent aussi comme vivants. Enfin, ils ont une âme, le UA. Et puis au-delà de ça, c'est des sites qui sont... Il faut bien comprendre qu'on a souvent une vision en tant qu'occidental que l'Alaska est une sorte de page blanche. C'est-à-dire, il y a cette idée même aussi de la banquise et qu'on arrive, en fait, on va trouver une terre...
Sans histoire,
sans
quasiment.
Histoire. Mmh. Mais au contraire, c'est une terre, justement, avec une histoire et une histoire très mouvementée. Donc ces sites archéologiques, souvent, c'est des sites qui datent de la guerre de l'arc et des flèches, donc qui est une guerre fratricide avec des raids multiples qui ont entraîné donc des morts multiples.
Ça nous renvoie à quelle époque exactement, ça ?
Alors là, c'est vraiment étendu sur plusieurs centaines d'années, mais je crois, dans le cas de Quinaugue, qui est un des sites de cette guerre des arcs et des flèches, donc ça doit, je crois que c'est il y a moins de 500 ans. En fait, c'est entre 1300 et 1700, après c'est Claire qui pourrait vous préciser ces dates-là. Mais donc ça veut dire qu'en fait, il y a des gens qui sont morts dans ces villages et dont on va troubler aussi le repos. Donc on ne peut pas arriver sur ces sites en tant qu'Européens et en tant qu'archéologues en disant on va déterrer. En fait, déjà, il faut un respect envers donc c'est les âmes de ces personnes et au-delà envers les objets.
Est-ce que les sites de fouilles sont considérés presque comme des territoires sacrés ?
Oui, alors par exemple, dans le cas de cet été, en fait, on accédait au site en brûlant donc, une feuille de rhododendron, donc du thé de Labrador après, pour s'enlever, en fait, pour se purifier. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... En fait, une immense révération, en fait, en quelque sorte, pour ces endroits-là. En fait, on n'y fait pas n'importe quoi, on fait attention. Par exemple, lorsqu'on était sur la fouille et lorsqu'on déjeunait, par exemple, on faisait très attention à ne laisser aucun petit déchet, ouais. Aucun débris de nourriture sur le sol pour ne pas déranger en fait, les âmes de ceux qui y ont vécu.
Claire Oumar, qu'est-ce que vous avez mis au jour alors, comme type d'objet pour qu'on comprenne bien aussi d'ailleurs la vie quotidienne ancestrale de ces populations ?
Dans les objets qui sont évidemment les plus emblématiques, il y a ces masques qui
oui.
sont un petit peu l'or marron qu'on cherche tous, parce qu'ils sont en bois. Il y a tout ce qui concerne la chasse, donc les armes de chasse avec par exemple des harpons, des visières, des fragments de kayak, d'embarcations de manière générale. On a tout ce qui touche à la pêche. Et notamment aussi à la conservation, au stockage des poissons, et en particulier des saumons qui sont pêchés dans ces rivières les plus poissonneuses de la région, finalement. On peut aussi retrouver tout ce qui est de l'ordre de l'équipement domestique, avec des bols, des instruments de cuisine. Et ensuite, on a tout ce qui concerne aussi ces conflits, avec donc des pointes de flèches, des arcs et des fragments d'armure qui peuvent aussi être préservés.
Ces masques d'ailleurs dont vous parlez, on les voit en photo d'ailleurs dans votre ouvrage, ils sont d'une beauté et d'une simplicité folle d'ailleurs, hein, Charlotte Fauve. Vous pouvez nous en dire un petit mot sur la description pour qu'on essaie d'avoir une image en tête.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une sorte de persistance de la figure humaine dans ces sols, en fait, dans cette tour, parce qu'il n'est pas rare qu'on déterre ces masques donc, qui sont extrêmement divers, mais souvent c'est des visages donc, mi-humains, mi-animaux. Il y a aussi, et ça ça m'a vraiment marqué aussi, c'est des petites poupées très simples, mais qui sont juste un bâton en bois, et donc qui représentent les habitants du village et qu'on trouve en grand nombre. Et c'est vrai que là-bas, on peut aussi se dire que ce sont les ancêtres directs de ces gens qui vivent juste à côté actuellement.
On va écouter Emmanuel Desvaux, il est anthropologue au musée du Quai Branly et il évoque justement les masques Yupik au micro de France Culture, c'était en 2024.
Vous voyez là, ce sont des très beaux exemplaires de masques Yupik dont on voit très bien le côté totalement désarticulé, la dissymétrie, les systèmes périphériques qui sont comme des espèces d'explosions du visage déformations et des articulations totales du visage, c'est particulièrement clair. On a bien le caractère très carnassier du masque. Vous voyez la double rangée de dents. Vous voyez que c'est un bec en plus. Vous voyez les yeux qui sont très très importants. Le front, effectivement, n'existe pas. C'est très clair.
Emmanuel Desvaux, donc, du musée du Quai Branly. Ce qui fait, Charlotte Fauve, que ces masques-là, on peut aussi les voir à Paris ?
Oui, alors effectivement, il y a 3 masques de mémoire donc, qui sont conservés et qui font partie de la collection du poète surréaliste André Breton, qui collectionnait donc ces masques, ouais. Dont un masque, donc celui qui est décrit, me semble qu'il y a un masque d'Utrier en vol absolument incroyable, et dont les bras, en fait, sont les ailes de l'animal, et qui est, donc le Yua, son âme, est mise en valeur avec un large sourire, donc on a l'impression que l'oiseau vous regarde.
Ouais. Ouais. Claire Oumar, est-ce qu'il est question, est-ce que ça a été évoqué en tout cas de restitution de ces masques au peuple d'Alaska ou ils sont à Paris, ils vont y rester ?
Je ne pense pas que pour l'instant des discussions aient été engagées et je ne pense pas qu'il y ait eu forcément de démarches faites par les communautés. Mais en tout cas, dans d'autres projets, notamment avec le gouvernement du Nunavut du côté du Canada, il y a des recensements qui sont en cours au niveau des institutions européennes, en préalable probablement de négociations pour des restitutions.
Dans la dernière partie de cette émission, on va se tourner un peu vers l'avenir, celui des fouilles, celui du village aussi, des villages d'ailleurs d'Alaska, et celui de cette mémoire arctique menacée. Et puis bien sûr, vous dialoguerez avec les auditeurs et auditrices. Vous pouvez nous rejoindre avec vos messages et vos questions. Franceinter.fr, la page de la Terre au Carré, et vos messages vocaux sur l'appli Radio France.
France Inter. La Terre au Carré.
Des passages serpentent pendant des kilomètres à travers le sol gelé de l'Alaska. La Terre n'a pas fondu depuis des éternités. De la terre, du bois, des ossements qui remontent à des dizaines de milliers d'années sont gelés. Mais ce sol constamment gelé, appelé permafrost, a ses inconvénients. L'homme moderne a construit sur ce sol ancien des maisons qui réchauffent le sol et entraînent des dégâts. D'énormes trous se forment dans le sol où la glace fond, provoquant des ruissellements. Les immeubles, les routes et les pistes d'atterrissage s'écroulent, provoquant de très 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 graves dégâts.
Et ça, c'est une archive de 1986, donc on observait déjà, réalisée par France 3 Nancy, des effets, des changements environnementaux sur cette terre de l'Alaska. Charlotte Fauve, vous qui êtes avec nous, avec Claire Oumar, autour de ce livre « Alaska, l'usure du monde » aux éditions Albertine et Seuil. Il y a un clin d'œil quand même à « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier, Charlotte Fauve, j'imagine, non ?
Oui, effectivement, donc c'était pour faire le lien à la fois entre le titre de cet ouvrage donc, qui incite à voyager et sur le fait que...
Oui, c'était une grande traversée, hein, l'usage du monde.
Et là, c'est un récit immobile, puisque c'était le pari, c'était à la fois de faire vivre au lecteur une fouille archéologique de l'intérieur, mais aussi le quotidien d'un peuple qui est en proie à une course contre la montre. Aussi, ouais. Voilà.
Comment vous avez travaillé, vous, sur place, en tant que journaliste, d'ailleurs ? Est-ce que vous êtes transformé en archéologue, ethnologue au fil du temps ? Comment ça s'est passé ? Vous y êtes allé 2 fois, c'est ça ?
Trois fois, c'est ouais, déjà ma 3e fois. Je me suis transformée en rien du tout. La particularité, c'est qu'effectivement, j'ai essayé de faire du journalisme, mais pour très vite décider que ce qui m'intéressait, c'était justement de... Et c'est pour ça que ce livre a été écrit à 4 mains.
Ouais.
De faire vivre ce trouble, en fait, que vivaient les populations locales, c'est-à-dire ce doute permanent qu'elles traversaient. Et tandis que Claire apportait une vision, on va dire, scientifique plus stable de connaissances. Donc, lorsque le lecteur ouvre le livre, il a ses deux visions, on va dire, celle scientifique et de ce que j'ai vécu, moi, et de ce que vivent les gens là-bas, en fait.
Claire Oumar, est-ce que la population sur place, d'ailleurs, fait le lien direct entre les changements qu'ils observent de leur environnement dans leur vie quotidienne avec la crise climatique ?
Oui, plus que jamais, c'est une vraie préoccupation parce que tous ces villages du Deltroit, des fleuves Yukon et Kuskokwim savent qu'ils vont avoir à se déplacer dans la génération qui vient, dans les 30 ans.
Ouais.
Donc c'est tout demain, finalement.
Donc ça, c'est très intégré déjà dans les esprits.
Oui, tout à fait.
Et ces déplacements, c'est dans les terres, évidemment, c'est des populations qui vont quitter les côtes de plus en plus.
Oui, ils n'ont pas le choix. Ce qui est un petit peu difficile pour eux, c'est que ça reste leur terre au sens législatif du terme, mais ce ne sont pas les territoires qu'ils ont l'habitude de fréquenter le plus régulièrement. Mmh. Donc ils sont un petit peu comme en terre inconnue, tout en étant sur leur propre terre.
Charlotte Faux, faut parler des plus jeunes d'ailleurs, hein, de la population d'Alaska, qui sont affectés donc par cette double perte à la fois environnementale et culturelle. Comment c'est vécu là-bas sur place ?
Ah ben ça, absolument terrible, hein, là encore, c'est qu'effectivement, donc, d'ailleurs j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a une hausse du suicide des jeunes qui est terrible. L'autre fait aussi, c'est que, et donc Claire l'a rappelé, c'est que c'est, en fait, ils ne sont pas nécessairement propriétaires de leurs terres. Et donc il y a une très grande grogne aussi de la jeunesse, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'il faut en quelque sorte vivre comme des blancs, donc comme des cassates, sur des terres en fait, où à l'époque, ils étaient semi-nomades. Donc quand on vous oblige à aller, en fait, à vivre dans une maison sur pilotis, à aller à l'école, puis ensuite avoir une sorte de métier sédentaire sur des terres qui, en plus, sont la plupart du temps inondables et sont très mouvantes, de plus en plus mouvantes, on se rend bien compte qu'il y a un paradoxe absolu.
Donc il y a une crise du logement là-bas sur place ?
Il y a une vraie crise du logement, parce qu'en fait, finalement, ça implique aussi de construire à chaque fois. Mais construire, ça demande en fait des matériaux qui sont emmenés la plupart du temps par avion. Ouais. Donc c'est très coûteux. C'est aussi, ça dépend des carrières locales qui, certaines fois, ce ne sont plus accessibles parce que justement, les rares routes sont emportées par la montée des eaux. Donc en fait, l'ensemble de la vie quotidienne devient très complexe, et c'est pour ça aussi, mais pour être très, on va dire, éloquente en termes de prix, un yaourt, là-bas, ça peut monter à 5 dollars.
100 dollars ?
5 dollars.
5 ?
Mais bon, si vous voulez, en fait, nous, on s'en était rendu 5 dollars.
5 dollars, ok.
5 dollars. Une pomme, ça peut être 5 dollars aussi. Donc, mm-hmm. lorsqu'on est déjà très pauvre, comment on se nourrit, comment, en fait, on vit le quotidien dans ces conditions ?
Claire Oumar, est-ce qu'il y a, parce qu'il y a aussi beaucoup de traditions orales hein, dans cette population, chez cette population, est-ce qu'il y a aussi de la sculpture, de l'artisanat qui poursuit finalement ce qui a été fait il y a des centaines d'années chez les ancêtres ?
Oui, essentiellement autour du bois et du bois flotté dans cette région du Delta. Mmh. Et si on monte un peu plus vers le nord, on travaille aussi encore beaucoup les bois de caribou et l'ivoire de morse.
Charlotte Fauve, quelles sont les perspectives aujourd'hui pour ce territoire et cette mémoire qui s'effrite là ? C'est vraiment ce que vous décrivez dans le livre. Et c'est un témoin aussi de tous ces changements environnementaux qu'on voit partout dans le monde, mais qui là en plus va à une vitesse assez folle et touche de plein fouet la vie des populations. Comment on arrive à se projeter finalement quand on habite cette partie du monde ?
Alors, ça, c'est une réponse difficile. Je pense qu'il faudrait demander un Youpik. Mais en fait, je pense que c'est déjà en étant, en leur permettant de se réapproprier justement leur passé. Et donc, c'est pour ça que ces fouilles archéologiques sont importantes. Ouais. D'être fier de celui-ci, d'avoir ces objets qui témoignent finalement d'un mode de vie plurimillénaire. C'est déjà une chose très importante. Après, évidemment, il y a des revendications très importantes sur les droits des natifs, sur cette histoire de propriété des terres. Mmh. Donc tout ça fait que, justement, il faudrait donner à ces populations davantage le droit, finalement, de peut-être choisir aussi leur mode de vie. Enfin, de pas, justement, être obligé de vivre comme un blanc, là-bas.
Mmh. Ouais. Est-ce qu'il y a du tourisme sur place ou pas ?
Alors, à Kwinawoak, il y a un tourisme particulier, donc c'est le tourisme c'est de pêche, donc avec des pêcheurs qui viennent notamment à l'été pour pêcher ces saumons et dans ces rivières, ce qui crée des problématiques multiples, parce que ce n'est pas forcément un ruissellement d'argent vers les Yupits. En fait, ça tombe aussi parfois l'escarcelle en fait, de voyageurs spécialisés. Et donc, en fait, le problème, c'est que ces populations-là n'ont pas nécessairement aussi l'infrastructure pour faire des hôtels ou pour permettre en fait, d'accueillir des gens qui voudraient aller admirer ces masques.
Donc ça crée d'autres pressions finalement sur les logements, les populations sur place.
Oui, et puis c'est souvent des gens qui ne s'intéressent absolument pas aux Yupits en fait, qui sont là pour pêcher et absolument pas pour finalement avoir une conversation avec un natif.
Allez, on va passer aux questions. Avec cette question de Zima, la population non autochtone, nous dit-elle dans ce message, est-elle au courant de ses recherches, le cas échéant, et au vu du conservatisme politique et du climato-scepticisme notoire du gouvernement américain, qu'en dit-elle concernant l'évidence du réchauffement climatique ? Claire Oumar, vous voulez répondre à cette question ?
Je pense que les Alaskiens blancs qui ne sont pas natifs n'ont pas vraiment envie de savoir ce qui se passe du côté des natifs, finalement. Et ils les voient plutôt comme des personnes assistées que comme des personnes qui sont dignes d'être mises en avant et de faire partie de cet état d'Alaska.
Charlotte, vous voulez compléter avec d'ailleurs ce message de Patrice qui nous dit « Sociologiquement parlant, dans un Alaska conservateur, les dégradations de l'environnement restent-elles indifféremment perçues selon le type de population descendante des colons ou autochtones ?»
Bah, c'est vrai que lorsqu'on vit à Anchorage, dans une ville qui est en apparence extrêmement stable, on ne se rend absolument pas compte de ce que c'est que la crise climatique et de cette injustice-là. Parce que finalement, est-ce qu'on peut accepter que ces populations-là qui sont en train de tout perdre, alors qu'elles n'en sont absolument pas responsables, vivent un déracinement, un double déracinement en fait.
Ouais. Et ça joue sur les choix politiques de ces populations selon vous ou pas ?
Je pense que ça joue surtout sur le fait qu'elles ont un ras-le-bol généralisé, en fait, parce que souvent on leur envoie des experts divers qui leur font un ultime rapport, qui racontent une nouvelle fois des choses qu'elles savent très bien. En fait, depuis très longtemps, on sait que le village de Kunawok va devoir déménager. De toute façon, c'est déjà ce que rapporte la légende ancestrale. Donc ils savent déjà ce qui se passe et on leur envoie des scientifiques pour, encore une fois, leur dire « Ah ben tiens, il faudrait qu'on trouve un autre système pour trouver des maisons plus résistantes à la fonte du permafrost. » Mais c'est pas ça qu'elles ont besoin d'entendre.
Claire Oumar, on a une question d'Annie qui nous dit ceci. Vous avez parlé de la façon dont la fonte du pergélisol a influencé la vie des populations. Mais comment est-ce que cela influence le rapport à la vie animale, demande-t-elle ?
Ça l'influence aussi tout autant parce que ils ont de plus en plus de visites, notamment des loups et des ours dans le village qui doivent chasser. Mmh. Et ces populations-là viennent parce qu'elles n'ont plus de caribous ou d'autres espèces à chasser dans les alentours.
Charlotte Fauve, autre question de Marc, toujours sur le même thème. Comment les Yukits subsistent avec des tels changements de conditions, eux qui avaient l'habitude de la pêche de saumon dans les eaux froides? Est-ce qu'ils arrivent à s'adapter?
Alors effectivement, tout cela est très complexe. C'est pour ça que d'ailleurs que le livre est une sorte de contre-la-montre, parce qu'en général, c'est l'été qu'on fait ses réserves. Donc ça veut dire qu'on a quelques mois pour remplir un congélateur. Et sinon, en fait, on va dépendre d'autres ressources qui sont des biens manufacturés, paquets de pâtes et compagnie, qui doivent s'acheter à prix d'or au supermarché local. Ce qui rend effectivement la vie très complexe.
Oui. Antoine demande, Claire Oumar, est-ce qu'on sait combien de villages ont disparu déjà et combien sont grandement menacés en Alaska ?
Nous, on ne s'est pas tellement renseigné sur ces chiffres-là, mais probablement qu'ils existent. Là, dans les 50 km autour de Quinoak, il y aurait 3 villages qui, suite à ce typhon, auraient besoin d'être complètement abandonnés maintenant, finalement.
Ouais, et ce n'est pas le cas pour le moment ?
Ben, la question, c'est de savoir aller où et réinstaller un village en un an, c'est compliqué. Donc, il faut aussi voir comment faire, sachant que le gouvernement actuel n'est pas le plus enclin à dépenser des millions pour ces questions-là.
Mmh. Victoria demande si on assiste déjà à des déplacements de population suite à la fonte du pergélisol. Charlotte Fauve, c'est déjà une réalité ou pas ?
Je crois qu'il y a déjà des villages qui ont entièrement déménagé. Le village de Kunawok a déjà changé de rive aussi au niveau de sa position par rapport à la rivière, si je ne me trompe pas. Donc il y a déjà des déplacements qui sont limités pour le moment, alors qu'effectivement, comme Claire l'a rappelé, c'est vraiment une situation globale qui est vécue par une multitude de communautés.
Ouais. Est-ce que ce travail que vous menez, Claire Oumar, pourrait inspirer d'autres communautés arctiques menacées également ?
En tout cas, le projet qui a été mené à Quinoak sur le site de Nunalek fait des envieux. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à aller visiter un autre village cet été. Mmh. Et probablement que beaucoup d'autres seraient intéressés. La question, c'est surtout d'avoir les moyens humains et financiers.
Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Je renvoie sur ce livre que vous publiez donc à quatre mains. Ça s'appelle « Alaska, l'usure du monde ». C'est aux éditions Albertine et au Seuil. Merci beaucoup d'être venu nous en parler à ce micro aujourd'hui.
Merci.